Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est l'homme de théâtre, de tous les superlatifs, Alexis Michalik, qui ne compte plus ses Molières, 5 comme metteur en scène, 5 pièces aussi toujours à l'affiche, Le Porteur d'Histoire, Le Cercle des Illusionnistes, Edmond, Intramuros, Une Histoire d'Amour, oui, c'est lui, et une 6e depuis quelques jours au Théâtre de Paris, c'est une comédie musicale, les producteurs adaptation en français de cet énorme succès de Broadway. Signé Mel Brooks, il en a d'ailleurs composé aussi la musique, Mel Brooks, et il avait réalisé auparavant un film. Bonjour Alexis Michalik.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Vous avez envie d'aller voir le West Side Story de Spielberg?
Ouais, j'ai envie. En même temps, j'ai pas mal d'appréhension parce que c'est un peu un de mes films préférés. Donc forcément, j'espère qu'il en a fait quelque chose de chouette. Et en même temps, je me demande pourquoi. Pourquoi aujourd'hui West Side Story alors que l'original est tellement bien, est tellement moderne et tellement n'a pas pris une ride. On verra. Réponse dans les salles.
Comme Spielberg, il n'y a pas de star dans votre pièce, les producteurs. La star, ben, c'est le metteur en scène. Spielberg, Michalik, même combat, les producteurs qui se montent sur votre nom. La pièce d'ailleurs n'est que peu connue, voire pas connue du tout en France. C'est un poids ou c'est une chance?
Non, pas du tout. C'est une chance pour moi. Enfin, en tout cas, ce que je réalise au fur et à mesure des publics qui se succèdent, c'est que la majorité des gens n'ont pas vu le film. Enfin, il y a toute une partie de gens qui connaissent Mel Brooks, mais une génération un peu plus jeune, on va dire, est moins familière de son travail et donc, du coup, découvre l'histoire dans la salle. Et c'est ce que je préfère parce que, comme l'histoire est folle, quand ils commencent à comprendre que ces deux producteurs vont monter un show qui s'appelle Des Fleurs pour Hitler, le délire gagne progressivement cette salle de néophytes.
On va revenir à l'histoire tout à l'heure. Donc Mel Brooks qui est vivant, il a 95 ans. Vous avez échangé avec lui d'ailleurs?
Ouais, je l'ai eu au téléphone.
Les droits forcément?
Non, les droits ça c'était pas moi, mais c'était pas lui non plus d'ailleurs. C'est ses agents et ses avocats et mes producteurs et tout ça. Mais non, on a parlé un petit peu artistique. On a parlé un petit peu de ce que je voulais faire parce que ben déjà je voulais lui prouver que j'allais pas trahir son œuvre. Et puis j'avais aussi je voulais lui demander de l'autorisation de faire quelques petites coupes pour passer d'un spectacle de 2h30. Avec entracte à Broadway, un spectacle de moins de 2 heures sans entracte en France pour un public français, et il a généreusement accepté.
Vous pensez qu'il pourra voir le spectacle ou au moins lui envoyer une vidéo?
Bon, j'en rêve, mais bon, voilà, il a 95 ans, c'est pas les meilleures conditions en ce moment pour voyager, donc si tu nous écoutes, Mel, viens.
Good morning Mel, good morning Mel. À tous, Alexis Michalik est notre invité jusqu'à 9h.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning.
Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
So good morning.
Good morning,
sunbeams will still smile through.
Good morning to you.
And you, and you, and you. Good morning,
good morning. We've gabbed the whole night through. Good morning,
good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana
in the morning.
In the morning, it's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
Might be just as zippy if we was in Mississippi.
When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight.
Don't say good morning.
Good morning.
Rainbows are shining through.
Good morning.
Good morning.
Bonjour.
Monsieur.
Buenos dias.
Buenos dias.
Buongiorno.
Buongiorno.
Good morning.
Gracias morgen.
Good morning to you.
Like a
Évidemment, chantons sous la pluie. Good morning, musique de Nacio Herb Brown. Notre invité ce matin, c'est Alexis Michalik. Alors, il y a beaucoup de pièces en ce moment à Paris, mais la dernière, c'est une comédie musicale. C'est Les Producteurs, adaptation en français de Mel Brooks. Alexis Michalik, comment vous êtes tombé dedans, dans la comédie musicale?
Très jeune, ma mère étant anglaise, j'ai grandi avec une culture anglo-saxonne et plutôt que de regarder les films à la télé, on allait plutôt voir les comédies musicales anglaises et américaines, évidemment. Donc justement, Chantons sous la pluie, ça fait partie de mon ADN. Tous les Noëls, on regardait ça, on regardait West Side Story, on regardait tous les grands classiques de la MGM des années 30 à 60. Et puis, c'est une passion qui m'est restée et un jour, en 2005, j'ai découvert le film de Suzanne Stroman, l'adaptation donc des Producteurs, la pièce de Broadway. Et je me suis dit, mais ça doit être un show incroyable au théâtre. Je me demande pourquoi on le fait pas en France. Et puis les années ont passé et personne l'a fait. Et puis je me suis dit, bah écoutez, est-ce que ce serait pas l'occasion de réaliser mes rêves?
C'était pas votre première comédie. C'est pas votre première comédie musicale. Il y a eu un Shakespeare très étonnant pour ceux qui l'ont vu. C'était, vous étiez moins connu à l'époque, une mégère presque apprivoisée.
Ouais, la mégère à peu près apprivoisée, ouais. Mais bon, effectivement, on savait ni chanter ni danser et c'était quand même très gentiment amateur et potache, mais on a quand même joué 300 fois à peu près. Et c'était, mais bon, je me suis toujours dit ce serait super de refaire une comédie musicale, mais cette fois avec des vrais chanteurs, des vrais moyens, un vrai orchestre, etc. Et c'est le cas cette fois-ci.
16 artistes sur scène, 7 musiciens. Vous qui êtes habitué à tout contrôler avec votre équipe, votre compagnie, là on est obligé de lâcher du lest sur les musiciens, sur la danse par exemple?
Bien sûr, surtout j'avais un super chorégraphe, Johan Nuss, j'avais une chorégraphe claquette, Eva Tezirovski, j'avais un directeur musical, Thierry Boulanger, et puis après mon équipe habituelle au décor, au costume, à tous les postes. Mais ça, bon, j'ai l'habitude avec le cinéma aussi, on délègue beaucoup, on a des chefs de poste et puis on travaille en équipe, mais moi ça j'adore, ça me fait juste un petit peu moins de travail, quoi.
On va parler d'adaptation. On écoutait à l'instant Singing in the Rain. C'est quand même quelque chose d'assez récurrent dans la comédie musicale. C'est de parler d'elle-même, le théâtre dans le théâtre ou le cinéma dans le théâtre. Ouais. Ça vous intéresse, ça? Parce qu'on va plonger dans l'histoire dans un instant des Producteurs. On est en plein dedans.
Ouais, bah moi c'est récurrent. En plus, dans mes spectacles, Edmond, ça parle quand même d'un spectacle qui se monte. Et Shakespeare lui-même, il parlait beaucoup de théâtre dans le théâtre. Hein. Dans Hamlet, il y a une pièce dans la pièce. Il y a quasiment à chaque fois des références théâtrales. C'est normal, on parle de ce qu'on connaît le mieux. Donc, moi, ce que je connais le mieux, c'est comment on fait un spectacle et l'excitation montante, et est-ce que ça va marcher ou pas. Et c'est toute la thématique des Producteurs.
Comme Singing in the Rain, qui a été adapté en comédie musicale, Les Producteurs, c'est d'abord un film.
Oui, c'est d'abord un film de Mel Brooks de 1967, dans lequel des producteurs tentent de monter cette comédie musicale. Et puis, en 2000, il se fait convaincre par un producteur de Broadway de l'adapter en comédie musicale. C'était pas son idée à la base. Et puis, il se prête au jeu et finalement, il écrit lui-même les chansons.
C'est étonnant, ça, parce que c'est des super chansons, qui très efficaces.
Ouais, mais il était... Il a connu le Broadway de l'âge d'or, hein. Il a grandi à New York, donc il connaît ça très bien et il est fan de musique. Et dans tous ses films, il y a toujours des petits numéros musicaux, The Inquisition. Il avait fait un tube avec It's Good to Be the King, évidemment. Il a toujours touché à la musique. Et là, et en fait, à la base, il était allé voir un excellent librettiste qui lui dit non, moi je suis pas libre, mais je connais exactement la personne qui devrait le faire, c'est vous. Et il s'est laissé convaincre et donc il s'est lancé dans l'aventure et c'est devenu un carton extraordinaire.
Avec aussi des hommages à la comédie musicale, parce qu'il y a ce procédé qu'on retrouve souvent dans la comédie musicale qui est la réalité, puis l'individu, le personnage qui sort et on plonge dans son rêve le temps d'un numéro.
Oui, dans son fantasme, bien sûr. Et c'est le style même des Producteurs, c'est un hommage à la comédie musicale des années 50. C'est très colporteur dans l'esprit, c'est des rimes intelligentes, drôles, avec de l'esprit, et c'est des refrains très jazzy qu'on retient en sortant de la salle. Donc c'est un hommage en soi, et puis la pièce elle-même est truffée de petits clins d'œil à plein de comédies musicales.
Alors Les Producteurs, c'est l'histoire d'un producteur,
ouais,
normal.
Max Bialystock, joué par Serge Postigo.
Ruiné, véreux, et après le bide de trop, il rencontre un comptable qui lui donne un peu malgré lui une idée. arnaquer les assurances en faisant le pire échec possible. Le but est donc de monter une comédie calamiteuse.
1. On trouve la pire pièce jamais écrite. 2. On engage le pire metteur en scène de toute la ville. 3. On lève 2 millions de dollars.
2.
Un pour toi et un pour moi. Il y a un tas de petites vieilles qui attendent que ça. 4. On embauche les pires acteurs de Broadway. Grande première à New York. Et pas le temps de dire 5. On a déjà fait faillite, empoché nos 2 millions et pris le premier vol pour le Rio.
Rio ? Oh non, ça marchera jamais.
Ah, homme de peu de foi. Qu'a dit Napoléon à ses troupes quand tout semblait perdu ? Qu'a dit Christophe Colomb à son équipage quand il n'y croyait plus ? Se tenant face à la mer Rouge, sachant qu'il était dans la mouise, tu sais ce qu'a dit Moïse ?
Qu'est-ce qu'il a dit ?
On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire, toi et moi. On peut le faire. On peut le faire. Accomplissons cet exploit. Toutes ces choses dont tu rêvais tant, regarde, elles sont juste là. De belles gambettes prêtes pour des galipettes qui se tortillent en Parisie, n'attendent plus que toi. On peut le faire. On peut le faire. Dis au revoir au petit comptable. Hey. On peut le faire. Tu seras fier d'enfin lâcher ton cartable. Toi, producteur, oui, producteur, car ton heure est arrivée. On peut le faire. On peut le faire. Tu verras. Ça va marcher. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Blue?
Qu'est-ce que j'en dis?
Oui.
Enfin la chance d'être un producteur de Broadway. Qu'est-ce que j'en dis? Enfin la chance de devenir qui je voudrais. Qu'est-ce que j'en dis? Qu'est-ce que j'en dis? Moi, tout ce que j'en dis, c'est... Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. C'est pas moi. Je suis un perdant, je suis un peureux, une poule mouillée, c'est comme ça. Pour ce qui est de séduire les femmes, je manque sérieusement de pratique. De belles gambettes, prêtes pour des galipettes, qui se tortillent en parésie, ce serait la panique.
Espèce de chenille toute rabougrie, mais qu'est-ce que tu attends pour te changer en papillon? Ouvre tes ailes et envole-toi vers la gloire! On peut le faire.
C'est égal, les stocks ne chantez pas. Écoutez-moi, je ne suis pas du tout le gars pour qui vous me prenez.
On peut le faire. C'est égal, on peut le faire.
Bien, je suis bon à rien, juste à crétin. Arrêtez, je suis dématé.
Allez, Léo, regarde plus haut.
La prison nous pend au nez.
On peut le faire.
Je peux pas le faire.
On peut le faire.
Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas le faire. Et ça ne peut pas.
Comment ça ne peut pas marcher? Il te faut juste un peu de courage. Bloom, je te sens comme une fontaine.
Il s'appelle Benoît Coden et Sergio Postigo. Ils sont formidables.
Serge Postigo. Sergio, c'est juste pour les intimes.
Ah, Serge Postigo. Enfin, Postigo, pardon. Deux des acteurs, des 16 artistes qui sont sur scène, des producteurs au Théâtre de Paris depuis quelques jours. Le nouveau spectacle, la nouvelle pièce d'Alexis Michalik. Notre invité ce matin, c'est une comédie musicale signée Mel Brooks. En français, vous venez de l'entendre dans cet extrait, cette captation.
Tout à fait.
Quels sont les défis, Alexis Michalik, de l'adaptation en français? Vous ne l'avez pas fait seul d'ailleurs.
Non, c'est Nicolas Angèle qui a fait l'adaptation. Et ensuite, je lui ai dit, voilà, maintenant, une fois qu'on va arriver au plateau, on va se rendre compte de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, et on va continuer à travailler. Et donc, tout le monde peut proposer une meilleure vanne ou une meilleure rime, et on prend la meilleure, quoi. Et c'était super de travailler comme ça. On a fait venir aussi un public un peu neutre.
Test.
Un peu test, ouais, que j'ai recruté sur Instagram. Et donc tous les jours, on avait des gens dans la salle et on voyait ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Les enjeux, bah, c'est bien sûr de traduire l'humour de Mel Brooks, qui parfois a des références très juives new-yorkaises, Broadway, qu'on n'a pas forcément en France. Les Tony Awards, personne sait ce que c'est.
Les Molières.
C'est devenu les Molières. Le Off-Broadway, c'est une référence qu'on a un peu du mal à comprendre. Donc on a dit, bon, c'est un peu comme Avignon, quoi. Il n'y a pas de parking, il y a des spectacles de mime, du théâtre expérimental. Voilà, c'est ce genre de traduction. Et puis après, ça, c'est quelques trucs en particulier. Et puis le reste, on a essayé de trouver un équivalent global, américain, mais qui puisse être accessible à un public français, quoi.
Mais l'humour de Mel Brooks est-il soluble non seulement en France, mais en 2021, son humour de 67 et même d'il y a 20 ans, d'il y a 2001, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous n'êtes pas dit, il y a des choses qui peuvent choquer aujourd'hui dans la France de 2021?
Ce qui est marrant, c'est que je pense que ce qui choquait en 1967 n'est pas du tout ce qui choquerait aujourd'hui en 2021. Toute la partie nazie, on a plus de recul aujourd'hui, on a eu plein de films un peu sarcastiques, Inglourious Basterds, etc., qui sont passés par là. C'est plus sa vision, on va dire, des femmes, des gays, de plein de choses qui aujourd'hui passeraient un petit peu moins, mais comme c'est traité avec tellement de... C'est des personnages tellement jusqu'au boutiste, tellement fous, tellement presque caricaturaux, et en même temps on a tellement d'empathie pour eux que ça finit par emporter le morceau et qu'on se pose plus la question et que c'est juste un délire de deux heures, quoi.
On est dans la satire, mais vous ne craignez pas encore aujourd'hui des réactions du public, et je pense que vous l'avez cité à ces représentations encore une fois satirique d'un metteur en scène et de son assistant homosexuel, très cage aux folles, on va dire.
Ouais, très cage aux folles, mais en même temps, le spectacle se passe fin des années 50, donc il faut aussi le replacer dans le contexte. Et puis justement, de tourner tout ça un peu en dérision, c'est aussi une manière de dénoncer certaines choses. Et puis pour ce qui est du couple des deux, du metteur en scène et de son assistant, en fait, on a tellement d'amour pour eux dès qu'ils entrent que ça passe à la trappe. Et puis mine de rien, c'est exagéré, mais c'est un couple pour lequel on a beaucoup d'empathie et d'amour, quoi.
Et juste sur Hitler, je sais pas si on a vraiment détaillé, mais ouais, c'est une comédie musicale qu'ils vont monter, qui s'appelle Des fleurs pour Hitler, écrite par un néo-nazi et qui va se transformer en une sorte de pièce kitsch du plus mauvais goût avec un Hitler, on peut dire, d'opérette.
Oui, c'est ça. Enfin, à la base, c'est un auteur nazi réfugié en Amérique, mais qui est aussi fan de Broadway et des claquettes et tout ça, et qui élève des pigeons sur un toit, donc on n'est pas non plus dans le plus grand sérieux. Les fameux pigeons, qui ont une scène qui leur est dédiée. Ils essayent de monter des fleurs pour Hitler de la manière la plus sérieuse possible pour choquer le public, avec le pire metteur en scène possible. Et puis finalement, ça va pas se passer exactement comme prévu.
Alors vous, pas d'arnaque à l'assurance, il faut que le spectacle marche. C'est plus de frais que d'habitude pour vous,
c'est sûr. Oui, c'est sûr.
Un spectacle qui doit durer des mois, voire des années.
Ouais, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Déjà, on va aller jusqu'à fin février, on va voir comment ça se passe. Mais évidemment, il y a 16 personnes, 16 acteurs sur scène, il y a 7 musiciens, il y a des régisseurs au plateau, il y en a 3, il y a des habilleurs, il y a une poursuiteuse. Enfin, il y a plus de monde que d'habitude, quoi. Donc effectivement, il faut qu'il y ait du monde dans la salle. Mais on va y arriver.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
Chanson du monde à 8h50 sur France Musique, Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, d'ailleurs, qui est, vous le disiez à juste titre, une adaptation, enfin vous le disiez en écoutant la chanson, de Plaisir d'amour de Martini, donc une mélodie du 19e siècle. C'est une chanson qu'on entend dans Une histoire d'amour, en ce moment à la Scala Paris. Alors là, on est dans un autre registre. Hein. Un mélo assez dur.
On rit quand même, mais
dur.
On pleure aussi.
On rit et on pleure avec beaucoup de musique. Ça commence par une chanson d'Aznavour. Comment vous utilisez la musique dans votre théâtre? C'est toujours très présent, Alexis Michalik.
C'est toujours très présent. Et pour les pièces précédentes, c'est plutôt des compositions. Justement, je travaille beaucoup avec un compositeur, Romain Trouillet, qui lui fait de la musique orchestrale. Là, pour Une histoire d'amour, je voulais une playlist, puisqu'on parle d'une histoire contemporaine qui traverse un peu une époque récente. Et donc, je suis allé chercher des chansons qui parle d'amour et qui parle aussi de rupture et de fin de l'amour, dont la plus symptomatique, la plus emblématique, c'est Et pourtant de Charles Aznavour, effectivement, qui ouvre la pièce.
Et qui dit beaucoup de choses ensuite sur l'histoire qu'on va voir, une histoire d'amour à voir à la Scala Paris. Pièce assez déchirante pour le coup. Je voudrais qu'on revienne d'un mot à ses producteurs, mais
moins déchirant,
beaucoup beaucoup moins déchirant. Mais comment on met en scène la musique? Est-ce que c'est des questions que vous êtes posées en faisant cette adaptation de Mel Brooks?
L'une de mes obsessions, c'est le rythme, et qui dit rythme dit musique. Et donc dans tous mes spectacles, il y a toujours une grosse partie dédiée à la musique. Il y a toujours 40-50 minutes de musique originale à chaque fois, qui vont un peu accompagner chaque pièce comme un score de cinéma, quoi, qui accompagne l'émotion et qui ne font pas que faciliter les transitions. Et donc la comédie musicale, forcément, étant ma passion, la musique est au cœur de l'ensemble du projet. Mais là, pour le coup, ce qui change vraiment, c'est qu'il y a 7 musiciens merveilleux, il y a un orchestre, quoi. Donc on a répété avec un pianiste pendant la majorité des répétitions, puis à la fin, il y a ce qu'on appelle la Sitzprobe, le moment où les chanteurs, acteurs découvrent l'orchestre qui a répété eux-mêmes pendant une semaine. Et c'est un moment magique, et à partir de là, c'est comment est-ce que tout ce beau monde va essayer de jouer ensemble, à la fois dans la comédie et à la fois dans le chant, et c'est génial.
Trop de rythme, parfois, ça peut nuire à l'émotion, il faut aussi doser.
Oui,
les tempos.
Oui, justement, avoir du rythme, ça permet justement de mettre des temps au moment propice à la naissance de l'émotion. Mais bon, globalement, quand même, aujourd'hui, on est vraiment très habitué à voir des choses qui vont vite et qui perdent pas de temps, sinon on perd l'attention de l'auditoire, donc c'est un peu une constante chez moi.
Vous aimez l'opéra ?
J'adore l'opéra, j'aime beaucoup l'opéra, mais c'est un monde que je trouve un tout petit peu plus snob que celui de la comédie musicale. Donc je suis quand même plus à l'aise dans le monde de la comédie musicale qui est quand même un peu plus populaire, on va dire.
Là, si le directeur de l'Opéra de Paris ou de l'Opéra Comique vous appelait pour vous dire de mettre en scène au hasard Carmen, vous diriez non tout de suite ou vous réfléchiriez?
Non, Carmen, j'adore, je connais par cœur, j'ai grandi avec. Oui, bien sûr, j'adorerais essayer pour l'expérience, mais oui, ou autre chose, hein, ou un opéra plus un opéra bouffe, Offenbach ou un Verdi ou n'importe quoi. Mais bon, je sais que c'est un gros gros challenge de faire de l'opéra, donc j'y réfléchirai un petit peu, parce que je ne sais pas si j'en suis capable, mais j'adorerais.
Ce serait aussi travailler dans la sphère du théâtre public, ce que vous ne faites pas, ça
pas
vous ferait
souvent,
peur
en tout cas, ouais. Non, peur, non, pas du tout, mais je ne sais pas, enfin, il faut voir, hein, je me poserai la question le jour où ça arrivera, quoi.
On verra. En tout cas, l'appel
est lancé
sur France Musique à 8h54. Vous savez, il y a des oreilles importantes qui nous écoutent à cette heure-ci.
C'est vrai.
Les producteurs, mais tout le monde est important dans tous nos auditeurs, hein, les producteurs de Mel Brooks, adaptation signée Alexis Michalik. Moi j'ai adoré, et ça donne envie d'aller le revoir avec les gens qu'on aime. C'est un formidable spectacle. Il y a d'autres comédies musicales en ce moment à l'affiche, on peut tout voir. En tout cas, je parle de Paris, il va y avoir bientôt, vous parliez de Colporteur, le spectacle Colporteur des frivolités parisiennes au Châtelet. Il y a également Le Roi Lion, pas très loin du Théâtre de Paris. Une comédie musicale, c'est forcément lancé à Noël comme ça?
Pas forcément, mais il se trouve que là, le Covid nous a un peu tous poussés à lancer nos spectacles en décembre, mais c'est parfait puisque c'est la meilleure période pour aller voir une comédie musicale en famille, entre amis, pendant les fêtes. Donc, allez voir de la comédie musicale, sortez, et je vous assure, ça vaut le coup.
Allez-y, et vous en sortirez follement gay, les producteurs, adaptation d'Alexis Michalik, signé de Mel Brooks, adaptation d'Alexis Michalik.
Si a line of beautiful girls dressed as stormtroopers, each one a gem, with leather boots and whips on their hips. It's risque, dare I say, S&M.
Love it.
I see German soldiers dancing through France, played by chorus boys in very tight pants. And wait, there's more. They win the war on the dances they do. We'll be daring anew. Turn, turn, kick, turn, 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 kick, turn. One, two, three, kick, turn. Keep it sassy, keep it classy, keep it...
And it's brilliant, brilliant. I speak for Mr. Bloom and myself, Roger, when I say that you are the only man in the world who could do justice to springtime for Hitler. Will you do it, please?
Please.
Wait a minute. This is a very big decision. It might affect the course of my entire life. I shall have to think about it.
No.
I'll do it. Oh. I'll do it. Champagne!
Ah! If at the end you welcome to cheer, keep it gay, keep it gay, keep it gay. Whether it's Hamlet, Othello, or Lear, keep it gay, keep it gay, keep it gay.
Harmony's joyous, a constant delight. Dramas annoy us and ruin our night.
So keep your Strindbergs and Ibsen's at bay.
I'll sing. Elizabeth Debris.
Keep it gay.
Voilà l'extrait de la version Broadway ici des
Reste
producteurs.
Gay.
Keep it gay, une chanson formidablement adaptée, mise en scène par Alexis Michalik au Théâtre de Paris. On parlera à nouveau comédie musicale, entre autres, demain avec notre invité, ce sera Lambert Wilson. Il en a fait plusieurs des comédies musicales. Il chante aussi Jean-Sébastien Bach, figurez-vous. Et il sera notre invité demain à 8h30 au générique de Musique Matin. Il y avait Emmanuel Morse d'Incan, Frédéric Kiefer, Flora Sternadel, Marion Guillemet, Pierre Matignon, Yacine Bouzard. Et notre voix mystère, il y a une heure. Eh bien, si on peut me le souffler dans l'oreillette parce que j'ai oublié, c'était, mais si, c'était Philippe Catherine, la voix qu'il fallait retrouver, car c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire à Philippe Catherine.